Je vais continuer sur ce thème de la génétique qui a permis de redécouvrir, ou en tout cas de découvrir qu'on ne connaissait peut-être pas beaucoup de choses en physiologie, en présentant deux ou trois diapositives pour rappeler ce que j'ai présenté il y a 10 jours, avant de commencer à présenter le projet d'aujourd'hui. Donc la question à laquelle nous nous sommes attelés depuis 10 ans maintenant, c'est de savoir si l'os a d'autres fonctions que de faire de l'os. Et si oui, quelles sont ces fonctions? Et dans la dernière conférence que je donnerai la semaine prochaine, j'essaierai de vous montrer qu'il y a une cohérence parmi toutes les fonctions de l'os, les fonctions classiques et les fonctions endocrines. Et j'essaierai d'expliquer pourquoi l'os a ses fonctions endocrines et particulièrement ses fonctions. L'hypothèse initiale, comme je l'ai présentée à plusieurs reprises, est qu'il y a une régulation coordonnée de nature endocrine entre la croissance osseuse, le métabolisme énergétique et la reproduction. Et en testant cette hypothèse à partir de l'os et non pas à partir d'autres organes, brièvement, ce que nous avons montré, c'est que l'os fabrique une hormone qui s'appelle l'ostéocalcine, qui agit sur les cellules bêta du pancréas pour faire de l'insuline après s'être liée à ce récepteur, qui agit sur le muscle pour augmenter la possibilité de faire de l'exercice par différents mécanismes que j'ai expliqués il y a 10 jours, et en particulier en augmentant la synthèse d'interleukine 6. Ostéocalcine aussi favorise la fertilité masculine en agissant upstream ou en amont de la testostérone, et elle agit dans l'os également pour augmenter la possibilité de faire de l'exercice et en amont de FGF21. Et toutes ces fonctions sont parfaitement en accord avec l'hypothèse initiale, à savoir qu'il y a une régulation coordonnée de la masse osseuse, du métabolisme énergétique et de la reproduction. Mais toutes ces fonctions viennent après un autre travail qui a précédé le travail sur ostéocalcine et qui nous a permis de montrer que le métabolisme énergétique, sous la forme de la leptine faite par les adipocytes, agit dans le cerveau pour inhiber la synthèse de sérotonine et pour conséquence d'inhiber l'appétit et de diminuer la masse osseuse. Quand on regarde à cette diapositive en enlevant toutes les molécules, ce qu'il y a, c'est qu'il y a en fait un signal qui va de l'adipocyte à l'os en passant par le cerveau. Et d'un point de vue mécanistique, le principe de l'endocrinologie étant, un des principes de l'endocrinologie étant le feedback, la question qui s'est posée tout le long de ce travail sur la régulation de la masse osseuse par leptine, c'est non seulement pourquoi l'os, mais aussi comment l'os régule cette régulation. Et est-ce que l'os agit dans le cerveau? Je vous dis tout de suite que c'est une question qui peut paraître incongrue, et qui l'est, mais quand vous la posez à Columbia, où il y a 2 prix Nobel de neurosciences et 15 personnes qui pensent qu'il aurait dû l'avoir, ça impose d'avoir fait tous les contrôles pour démontrer que c'est le cas. Le premier contrôle, et comme je l'ai déjà dit durant la première lecture, vient de la médecine, et c'est le meilleur contrôle. Cette maladie, qui s'appelle la dysplasie cléido-crânienne en français, est une des maladies génétiques de l'os les plus classiques. Ce sont des enfants dont les symptômes osseux ne sont pas très importants, mais qui ont une mutation dans un gène que nous avons cloné, qui est le master gene de la différenciation des ostéoblastes, un facteur de transcription. Et en fait, la façon dont nous avons cloné RUNX2, c'est en étudiant le promoteur d'ostéocalcine. Donc, et en fait, ostéocalcine expression dépend pratiquement à 80% de l'expression de RUNX2. Et c'est important parce qu'il a été noté il y a 60 ans que 30 à 50% des patients qui ont une dysplasie cléido-crânienne ont des défauts cognitifs. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas de gène, donc on ne savait pas s'il y avait une mutation dans l'os et dans le cerveau. Mais une fois que le gène causal a été identifié, ce gène est exprimé uniquement dans les cellules du linéage ostéoblaste. La question était évidemment comment l'os peut réguler le cerveau. Et comme RUNX2 est un régulateur d'ostéocalcine et ostéocalcine est une hormone, nous avons envisagé que ostéocalcine pouvait effectivement réguler quelques fonctions dans le cerveau. Et donc, Franck Oury, qui est dans l'audience aujourd'hui, a fait la première manip fait toutes les manips de ce travail. Mais la première manip qu'il a faite a été de mettre des pompes qui délivrent de l'ostéocalcine sous la peau, dans le dos des souris. Des souris qui sont ostéocalcine knockout. Donc, si on détecte de l'ostéocalcine dans ces souris, quelque part, n'importe quel tissu, ça viendra de la pompe. Et de fait, si on injecte dans ces souris, si on met une pompe qui délivre du PBS, de l'eau essentiellement, il n'y a jamais d'ostéocalcine nulle part. Mais les souris qui reçoivent la pompe avec de l'ostéocalcine ont de l'ostéocalcine dans le sérum, qui est le contrôle positif, et dans l'os, car l'ostéocalcine a un tropisme pour l'os. Mais il y a aussi un niveau assez élevé d'ostéocalcine dans... ça va rester, je pense, durant toute la conférence, le midbrain, le brainstem et l'hypothalamus. Essentiellement, le brainstem et le midbrain. Ostéocalcine se lie au noyau du raphé dorsal qui produisent la sérotonine. Vous voyez ici le marquage par l'ostéocalcine, le marquage par la sérotonine et les deux ensemble. Il se lie dans cette région du cerveau qui s'appelle en anglais le ventral tegmental area, où il y a un marquage par la tyrosine hydroxylase. Et il se lie dans l'hippocampe, dans la région sciétrie de l'hippocampe. Il y a une liaison d'ostéocalcine qui peut être chassée par l'ostéocalcine froide. Donc, l'ostéocalcine passe la barrière hématoménagée, se lie à des neurones dans le cerveau qui ne sont pas random, mais des populations spécifiques de neurones dans le midbrain et le brainstem. Et il ne fait pas que se lier à ces neurones. Elle a également une activité neuroactive. Si on traite des neurones avec de l'ostéocalcine, les neurones réagissent comme ils réagiraient si on les traitait avec dopamine ou sérotonine. Ça agit comme un neurotransmetteur, except que ce n'est pas exactement fait dans l'os. Dans le cerveau. Au point de vue moléculaire, les souris qui n'ont pas d'ostéocalcine ont une diminution de la quantité de sérotonine dans les régions où on a pu montrer qu'ostéocalcine se liait, le striatum, l'hippocampe, le midbrain, le brainstem et le cervelet. Il y a une diminution qui est extrêmement importante de la dopamine dans le striatum et dans le midbrain, et un peu moindre dans le cortex, et une diminution de la norépinéphrine dans le brainstem. Donc, toutes tous les neurotransmetteurs monoamines sont diminués en l'absence d'ostéocalcine. À l'inverse, il y a une augmentation d'un neurotransmetteur qui est un neurotransmetteur inhibiteur en l'absence d'ostéocalcine, GABA, dans le cortex, le striatum, le midbrain, le brainstem et le cervelet. L'os n'a pas que des influences sur des molécules de neurotransmetteurs, mais il a aussi une influence, et c'est important pour la première partie de cette conférence, sur le développement du cerveau, puisque en l'absence d'ostéocalcine, l'hippocampe des souris n'est pas celui que vous voudriez avoir, et le corps calleux, qui rejoint les deux hippocampes dans les deux hémisphères est absent dans un grand nombre de souris ostéocalcine négative. Et il y a un syndrome dont j'ai oublié le nom en français où il y a une absence de corps calleux. Et en général, ces malades ont également des anomalies du métabolisme énergétique. Enfin, dernier point de biologie cellulaire, c'est que l'ostéocalcine favorise la neurogénèse postnatale. En l'absence d'ostéocalcine, les neurones qui sont marqués par la double cortine, leur nombre est diminué, BRDU, leur nombre est diminué, et cette diminution est de sévérité variable suivant les régions du cerveau que l'on étudie. Et tout ça, c'est très joli, mais la question, c'est est-ce que l'ostéocalcine a un impact sur les fonctions du cerveau? En d'autres termes, est-ce que le squelette est en amont de certaines fonctions du cerveau? Nous avons étudié trois fonctions, puis rapidement que deux fonctions. Mais la première que nous avons étudiée est le fait que l'ostéocalcine puisse ou ne puisse pas diminuer l'anxiété. Donc, quand on met une souris normale, sauvage, dans une boîte blanche bien carrée, toute fermée, tout ce que cette souris veut faire, c'est s'enfuir de cette boîte, et vous allez voir qu'elle est assez agitée. Ça, essentiellement, mesure l'influence du squelette sur le niveau d'anxiété dans une souris. Une souris qui est anxieuse reste dans un coin, et c'est ce que font les souris ostéocalcine, d'un coin à l'autre, tandis que les souris sauvages, elles, cherchent à s'enfuir. La seconde fonction que nous avons étudiée au début et nous avons finalement laissé tomber au cours du temps, et est-ce que l'ostéocalcine diminue est un modulateur de la dépression? Et la raison pour laquelle nous n'avons pas continué à travailler sur la dépression, c'est que c'est un paramètre assez difficile à mesurer chez la souris. Mais toujours est-il qu'en l'absence d'ostéocalcine, si on prend deux tests qui mesurent la dépression, qui sont le force swim test, où les souris sont obligées de nager, ou ce test où on les mesure où on les suspend par la queue. En l'absence d'ostéocalcine, les souris sont beaucoup plus déprimées que les souris sauvages. Le test est la fonction sur laquelle nous avons passé le plus de temps depuis que Frank a démontré cette fonction d'ostéocalcine, c'est la mémoire. Donc, le premier test que nous avons utilisé pour étudier la mémoire s'appelle en anglais Morris Watermaze. Et les souris sont des animaux qui n'aiment pas l'eau et qui sont à peu près aveugles. Donc, le test consiste à les entraîner à trouver une plateforme dans une piscine remplie d'une eau opaque. Et quand on fait ça, quand on les entraîne vous allez le voir, pendant 12 jours, les souris sauvages sont assez intelligentes et trouvent la plateforme. Et vous allez voir, Pourquoi? Je peux dire que je pense que les souris mutantes ne pourront jamais faire médecine. Ça a pris 8 secondes. La souris mutante va approcher la plateforme à plusieurs reprises, elle ne la trouvera jamais. Ce que vous voyez là, c'est la démonstration que la mémoire est une fonction indirectement, mais néanmoins est une fonction du squelette. Il n'y a aucun gène qui soit brain spécifique dont la mutation a un effet aussi catastrophique sur la mémoire. Et je ne vais pas laisser le film se déroule pendant 10 minutes, juste pour vous montrer qu'elle ignore la plateforme. Elle ne trouve jamais la plateforme. À tel point que les souris ou ostéocalcine brisent un dogme de l'endocrinologie qui est, et encore une fois, je m'excuse, je n'ai pas l'expression française, c'est le sparing effect, qui est telle que quand on a la moitié de l'hormone, on n'a pas de phénotype. Et c'est vrai pour toutes les hormones, y compris pour ostéocalcine, dans toutes les fonctions, sauf pour la mémoire. Les souris sauvages trouvent la plateforme en 3 jours, et après ça, c'est parfait. Les souris ostéocalcine knockout ne trouvent jamais la plateforme, pas plus au 12e jour qu'au premier. Et les souris hétérozygotes, en vert, elles auront du mal à la fac. Je ne pense pas qu'elles peuvent y aller, mais ça va prendre du temps. Elles ont un phénotype, c'est le seul phénotype d'ostéocalcine qui est dominant. Et c'est, il n'y a, je crois, pas d'autre phénotype en endocrinologie qui soit dominant. Ces résultats, indépendamment du fait d'être ou de ne pas être à Columbia, posent de nombreuses questions, mais celles que nous avons étudiées, c'est: est-ce que, essentiellement, toutes ces questions peuvent se résumer en une seule question: est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est simplement une conséquence du fait que les souris ont trop d'insuline, pas assez de testostérone, encore que ça soit fait chez les femelles? Si c'est vrai, est-ce qu'ostéocalcine agit dans le cerveau, ou c'est parce que ostéocalcine agit dans le foie, sur une molécule qui va agir dans le poumon et une autre qui va agir dans le cerveau? Et si c'est vrai, est-ce qu'ostéocalcine agit après la naissance, quand elle est exprimée? Ostéocalcine n'est pas exprimée avant la naissance. Ou est-ce qu'il y a un effet développemental? Et vous allez voir pourquoi je demande ça. Alors, quand je vous dis que c'est un projet qui était un peu difficile à Columbia, la première difficulté, c'est qu'il y avait ce phénotype et il y avait ce pattern d'expression du récepteur. OK? Donc, on était en face d'un ligand qui a un phénotype, mais le récepteur n'est pas exprimé où est le ligand. Il y a un aspect positif à cette information, c'est que les souris qui n'ont pas de GPRC6A sont aussi diabétiques, ont aussi moins d'insuline, trop de glucose, etc. Donc, si le phénotype de mémoire et d'anxiété des souris ostéocalcine knockout est secondaire à leur anomalie métabolique, les souris GPRC6A knockout devraient avoir ce phénotype. Et elles ne l'ont pas. Encore une fois, on va les faire tourner. Les souris ostéocalcine sont extrêmement déprimées et ne bougent pas. Les souris GPRC6A nulles sont exactement comme les wild type. Donc, cette expérience, et on l'a faite également pour la mémoire, démontre que les fonctions d'ostéocalcine sur la mémoire et l'anxiété n'ont rien à voir avec ces fonctions métaboliques. Pour déterminer si ostéocalcine agit directement dans le cerveau ou agit indirectement dans le cerveau en agissant sur une cascade de molécules en périphérie, ce que nous avons fait, c'est nous avons eu recours à des souris qui sont ostéocalcine knockout. Il n'y a pas d'ostéocalcine nulle part. Ces souris reçoivent dans leur cerveau ou bien le véhicule, ou bien ostéocalcine. Et ce que l'on voit, c'est que les souris ostéocalcine knockout qui reçoivent ostéocalcine dans le cerveau, on corrige l'anxiété. On corrige la dépression, et c'est là où ça devient un tout petit peu plus compliqué. On corrige le déficit de mémoire, mais pas complètement. Et je vais revenir sur ce point. Mais toujours est-il qu'ostéocalcine agit dans le cerveau pour contrôler les fonctions du cerveau. Et la troisième question était, est-ce que c'est un effet postnatal, comme on s'y attend, puisqu'ostéocalcine n'est pas fabriquée durant l'embryogenèse, ou y a-t-il une composante développementale? Alors, nous avons utilisé des souris pour lesquelles la délétion d'ostéocalcine est ostéoblaste spécifique. Donc, toutes les autres cellules du génome ont le gène d'ostéocalcine, mais les ostéoblastes ne l'ont pas. Et ces souris sont anxieuses, elles sont déprimées, elles ont un corpus callosum, un corps calleux, pardon, et elles ont un hippocampe qui est de structure à peu près normale comparé aux souris ostéocalcine. Donc ici, il y a une dichotomie. Entre le phénotype des souris ostéocalcine et le phénotype des souris ostéocalcine après la naissance. Le fait que cet hippocampe et le corps calleux soient présents indique qu'il y a un effet développemental. Et pour la mémoire, cette mutation a un effet sur la mémoire. En l'absence d'ostéocalcine à l'âge adulte, les souris n'iront pas en fac de médecine, mais elles ne sont pas aussi stupides que les souris ostéocalcine qui ne pouvaient jamais apprendre où était la plateforme. Donc il semble qu'il y ait deux dimensions dans le phénotype de la mémoire, l'une développementale et l'une postnatale. En fait, les souris à qui il manque l'ostéocalcine de façon postnatale, et c'est une délétion qui n'est pas complète pour des raisons de biologie moléculaire et de structure du locus, ont un phénotype qui ressemble assez fortement au phénotype à qui il manque un allèle d'ostéocalcine. Donc, ça nous posait un problème parce que, encore une fois, et on l'a vérifié par de nombreuses techniques, ostéocalcine n'est pas exprimée durant l'embryogenèse. Donc, comment une molécule qui n'est pas exprimée durant l'embryogenèse pourrait réguler l'embryogenèse? Je voudrais faire une parenthèse ici pour un événement de la Seconde Guerre mondiale qui a eu des grandes répercussions médicales. Encore une fois, je ne connais pas le nom exact en français, mais cet épisode est assez important. C'est durant l'hiver 44-45, l'armée allemande a décidé de créer une famine en Hollande. Il y avait, évidemment, tous les Hollandais avaient faim. Certains étaient des femmes qui étaient enceintes. Et les enfants de ces femmes enceintes ont développé avec une grande fréquence, ou une plus grande fréquence que normale, des troubles de fonction cognitive et des anomalies métaboliques. Sans qu'on ne puisse jamais trouver un mécanisme moléculaire pour expliquer le Dutch Hunger Winter. Je ne veux pas dire qu'ostéocalcine est l'explication de Dutch Hunger Winter, mais les résultats que je vais montrer montrent que ostéocalcine est certainement contribue à l'explication de Dutch Hunger Winter. Pour vérifier qu'effectivement il n'y a pas d'ostéocalcine dans l'embryogenèse, nous avons mesuré dans le sérum des embryons ostéocalcine. Et il n'y a aucune ostéocalcine n'est pas détectable avant le jour 16.5 d'embryogenèse dans l'os, Ça, c'est le RNA, et dans le cerveau, il n'est jamais détecté. Et vous pouvez voir qu'entre 16,5 et 17,5, l'augmentation de l'expression d'ostéocalcine est de 8 fois. Donc, essentiellement, il n'y a pas d'ostéocalcine jusqu'à 16,5. Et ce qu'il y a à 16,5 est vraiment très faible comparé au reste, aux deux autres jours de l'embryogenèse. Le problème est que l'ostéocalcine est présent dans le sérum des embryons à 14,5. Autrement dit, l'ostéocalcine est présent dans le sérum des embryons deux jours avant qu'il soit exprimé dans les ostéoblastes. Le seul moyen d'expliquer ce paradoxe est d'émettre l'hypothèse que l'ostéocalcine de la mère traverse le placenta et se retrouve dans le sérum des embryons. Et avec Alexandre Bonin à Los Angeles, nous avons utilisé sa machine qu'il appelle un placentomètre, et nous avons pu montrer que l'ostéocalcine traverse le placenta à partir du jour 14,5, beaucoup plus à jour 15,5 et encore plus au jour 18,5. Donc, non seulement l'ostéocalcine traverse la barrière hématoménagée, mais elle traverse le placenta et elle se retrouve dans le sang. Restait à démontrer qu'effectivement c'était la raison pour laquelle l'ostéocalcine est présente dans le sang. Et cette démonstration est purement génétique et c'est un travail de Romain, car il a fallu faire, vous allez le voir, un certain nombre de croisements et en nombre suffisamment important pour arriver à des résultats qui soient significatifs. Des souris, chez les embryons à jour 18,5, dans le sang, si la mère est sauvage et l'embryon est sauvage, il y a à peu près 21 nanogrammes par ml d'ostéocalcine. Si la mère est hétérozygote, on trouve la moitié. Mendel est respecté. On passe de 21 à 12 nanogrammes par ml. Si la mère est hétérozygote et l'embryon est hétérozygote, on perd encore la moitié. On est à 7,5 nanogrammes par ml. Si l'embryon est hétérozygote, mais que la mère est homozygote, il n'y a pratiquement plus d'ostéocalcine. Okay. Toute l'ostéocalcine dans le sérum vient de la mère. Et si la mère est hétérozygote maintenant, et l'embryon est homozygote, il y a pas énormément d'ostéocalcine, mais certainement plus que dans la situation inverse. Ça démontre effectivement que l'ostéocalcine durant l'embryogenèse traverse le placenta et a une action développementale. Et le contrôle négatif, c'est que les souris ostéocalcine knockout nées de mères ou qui sont été fécondées par les mères ostéocalcine knockout n'ont pas d'ostéocalcine. Si maintenant on reprend toutes les expériences qui avaient été faites au début ignorant ce fait, les souris ostéocalcine knockout nées de mères ostéocalcine knockout ont une apoptose dans l'hippocampe qui explique que leur hippocampe est plus petit, de telle façon que vous pouvez voir tout de suite qu'elles ont un cerveau qui ne ressemble pas à celui des souris sauvages ou à celui des souris ostéocalcine knockout nées de mères hétérozygotes. Enfin, pas nées de mères, mais portées par des mères hétérozygotes. Tout ça, c'est des embryons à E18.5. Quel est l'impact fonctionnel de l'effet maternel d'ostéocalcine? Il y a deux manières de répondre à cette question. Je vais vous présenter la manière scientifique. Pour répondre à cette question, nous avons fait des croisements entre souris ostéocalcine knockout et ostéocalcine knockout. Il n'y a pas d'ostéocalcine dans le système. Dès que nous avons vu que les souris femelles avaient été fécondées, nous avons injecté ostéocalcine une fois par jour, tous les jours dans la mère. Les souris sont nées à jour 18. Et 3 mois plus tard, nous avons fait des tests de comportement. Et nous avons fait des mesures de neurotransmetteurs. Donc, les souris qui n'ont pas d'ostéocalcine, mais qui sont nées de mère ostéocalcine knockout injectée avec ostéocalcine, ont maintenant un niveau de sérotonine normal, ont un niveau de dopamine qui n'est pas normal, mais qui est plus élevé que celui de leur congénère ostéocalcine knockout sans injection, et ont un niveau de norépinéphrine normal. Encore une fois, soulignant l'importance de l'effet maternel d'ostéocalcine. Et de fait, on peut voir que le corps calleux qui est présent chez les souris sauvages, absent chez les souris ostéocalcine knockout, née de mère ostéocalcine knockout, est présent dans les souris ostéocalcine knockout, née de mère ostéocalcine knockout, injectée avec ostéocalcine. Ces injections corrigent partiellement le déficit de mémoire, et on s'attendait à ce que ça soit partiel, car on sait qu'il y a un effet purement adulte d'ostéocalcine sur la mémoire. En d'autres termes, les souris qui sont ostéocalcine knockout, nées de mère ostéocalcine knockout, à part ce point qui est un peu hors de la courbe, ont essentiellement pas de mémoire. Les souris ostéocalcine knockout, nées de mère ostéocalcine knockout, qui ont reçu de l'ostéocalcine durant leur grossesse, ont une large correction de leur mémoire, qui n'est pas complète, car il y a aussi un effet purement postnatal d'ostéocalcine. Donc, j'espère que j'ai été clair, mais ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'ostéocalcine est un déterminant fondamental de la formation du squelette, en particulier de l'hippocampe et du raphet postérieur, et qu'indépendamment de ses fonctions, il régule la mémoire de façon postnatale. Encore une fois, la molécule pourrait s'appeler ostéocalcine, elle pourrait s'appeler ostéopontine, ostéonectine. Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que l'évolution a été telle que chez les mammifères ou chez tous les animaux qui ont de l'os, il y a un deuxième niveau de contrôle, de régulation du développement et des fonctions du cerveau qui est assumé par le squelette. OK. La semaine dernière, je vous ai montré que chez des souris sauvages, essentiellement à 9 mois, chez les femelles et chez les mâles, les souris n'ont plus d'ostéocalcine. Et chez les humains, à 21 ans pour les femmes, il n'y a plus d'ostéocalcine, et à 40 ans pour les hommes. Si on prend toute cette biologie d'ostéocalcine que j'ai décrite jusqu'à maintenant et ces deux observations, la question est-ce qu'ostéocalcine peut expliquer le développement et ou avoir un effet thérapeutique pour le déclin des fonctions cognitives avec l'âge. Donc, le déclin des fonctions cognitives avec l'âge, ce n'est pas Alzheimer. C'est, vous oubliez le nom d'un ami. Vous ne pouvez pas le retrouver. Il va falloir que vous arrêtiez d'y penser pour que ça revienne. Ce genre de déclin est beaucoup plus fréquent qu'Alzheimer, et non seulement plus fréquent, mais sa fréquence va encore augmenter puisqu'il y a un vieillissement progressif de la population dans les pays développés. Ce problème avait été, indépendamment de stéocalcine, avait été abordé il y a 4 ans par un groupe californien qui avait fait une expérience qui vraiment avait reçu beaucoup d'attention car c'était la première démonstration qu'on pouvait changer le déclin cognitif lié à l'âge. Ce que ce groupe a fait, c'est de prendre des souris jeunes, sauvages, jeunes ou vieilles, et d'injecter dans ces souris jeunes du sérum de souris jeunes et dans les souris vieilles du sérum de souris vieilles ou du sérum de souris jeunes. Et ce qu'ils ont montré, c'est que quand on injecte du sérum de souris jeunes dans une souris vieille, la souris vieille peut aller en fac de médecine. En fait, ce qu'ils ont montré, on n'avait pas vraiment besoin d'eux, mais Lance Armstrong et ses amis l'ont montré, si on prend du sérum d'un jeune et on l'injecte à un plus âgé, c'est toujours bien. La question que nous sommes posés, c'est est-ce que cette fonction est due en partie ou totalement à ostéocalcine? Et pour adresser cette question, nous avons refait la manip de Tony Weiss-Corey en injectant du plasma dans des souris âgées qui venaient de souris jeunes ou âgées, except que ces souris avaient différents phénotypes. Et nous avons fait les tests de comportement à la fin de ces injections. Donc, je vais expliquer ces résultats. Donc, le premier test est un test d'anxiété. Et quand on a le contrôle, ce sont des souris âgées qui reçoivent du sérum de souris âgées. Elles ont un certain niveau d'anxiété. Mais si elles reçoivent du sérum de souris jeunes, elles sont moins anxieuses. Pardon. De souris jeunes sauvages, elles sont moins anxieuses. Si, en revanche, elles reçoivent du sérum de souris jeunes, mais ostéocalcine knockout, elles sont encore plus anxieuses. Et pour montrer que c'est ostéocalcine et non pas des molécules régulées par ostéocalcine qui expliquent ce phénomène, nous avons ensuite injecté des souris âgées avec du sérum de souris ostéocalcine knockout jeune dans lesquelles nous avons injecté ostéocalcine. Et elles retournent en fac de médecine. Okay. Elles sont totalement. Elles ont, en termes d'anxiété, vous allez le voir en termes de mémoire, elles sont passées de l'âge de 16 mois à l'âge de 3 mois. Si on fait le même test maintenant pour la mémoire en prenant un test en utilisant un test qui mesure la mémoire de l'hippocampe, qui s'appelle le Novel Object Recognition. Les souris âgées qui reçoivent du souris âgées n'ont pas de mémoire. Les souris âgées qui reçoivent du sérum de souris sauvage jeune ont une très bonne mémoire. Les souris âgées qui reçoivent du sérum de souris ostéocalcine jeune n'ont pas de mémoire et ostéocalcine corrige ce phénotype. C'est une façon de voir les résultats et c'est une autre façon de les mesurer. Et les résultats sont les mêmes. Pour démontrer que c'était non seulement ostéocalcine est nécessaire, mais est suffisant pour expliquer l'effet de Weiss-Corey, nous avons maintenant fait la manip inverse. Nous avons pris du sérum de souris sauvage et nous l'avons immunodéplété avec un anticorps ostéocalcine avant de l'injecter dans les souris âgées. Et vous voyez qu'il n'y a aucun moyen qu'elles aillent en fac de médecine. Il n'y a aucun progrès en mémoire. Ok, mais nous avons toujours ce problème. Comment ça marche? Il n'y a pas de récepteur pour ostéocalcine dans le cerveau. Donc, beaucoup de gens à Columbia se sont intéressés à la nature du récepteur d'ostéocalcine dans le cerveau et Bismarck disait que les Français ont une exceptionnelle capacité à résister le progrès. C'est vrai. Je ne dis pas ça pour ce qui se passe dans la rue, mais c'est vrai. Franck et d'autres voulaient faire des manips très compliquées de RNA-seq, de je ne sais pas quoi d'autre, qui me semblaient très très compliquées. Et en fait, ce que j'ai pensé, c'est qu'on pouvait être très paresseux et arriver au même résultat. En définissant une stratégie qui est la suivante. Le récepteur d'ostéocalcine dans le cerveau doit appartenir à la même classe de GPCR que le récepteur d'ostéocalcine dans les organes périphériques. La raison est que toutes les hormones qui ont plusieurs récepteurs GPCR ont tous des récepteurs qui appartiennent à la même sous-famille. Le deuxième critère, c'est que ce récepteur devrait être exprimé dans l'hippocampe, mais pas en dessous. Pas dans les gonades, le pancréas, le muscle. Okay. Et donc, ce qui nous intéressait, c'est cette région de l'hippocampe. La chance que nous avons eue, c'est que la famille ou la sous-famille de GPCR à laquelle appartient GPR66A est la plus petite. C'est la classe C de GPCR. Et dans cette classe C, tous les récepteurs ou presque ont un ligand, sauf ces malheureux 5 ou 6 récepteurs et celui-ci. Donc nous avons effectivement étudié l'expression de ces récepteurs dans le cerveau et dans le reste du corps, et un seul récepteur est exprimé dans la région C et TRI. C'est GPR158. GPR158 n'est pas exprimé que dans l'hippocampe, dans le cerveau, et je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais le fait qu'il soit exprimé ailleurs dans le cerveau simplement indique qu'ostéocalcine a d'autres fonctions dans le cerveau qu'on n'a pas encore étudiées. GPR158 est exprimé uniquement dans le cerveau et dans aucun des tissus où GPR66A est exprimé. Donc la dichotomie est parfaite. GPR158 se lie aux neurones qui sont marqués avec MAP2 dans le cerveau et non pas aux cellules de la glie qui sont marquées. La glie qui est marquée avec MAP2. Toujours est-il que l'ostéocalcine se lie aux neurones et non pas aux cellules de la glie. Donc, et ça devrait se lier aux neurones, puisque la première diapo que je vous ai montrée, c'est que l'ostéocalcine est neuroactive. Et ça ne se lie pas aux cellules qui expriment GFAP, qui est un marqueur des cellules gliales. Quand on CIFOS est un marqueur d'activité neuronale, c'est un early gene response. Si on injecte ostéocalcine dans des souris sauvages, il y a expression de CIFOS dans l'hippocampe. Si on l'injecte dans des souris qui n'ont pas GPR152, il n'y a pas d'expression de CIFOS. En électrophysiologie, ostéocalcine signale normalement dans les neurones de l'hippocampe, mais si ces neurones sont knock-out pour GPR158, il n'y a aucune activité d'ostéocalcine sur ces neurones. Et c'est un récepteur qui agit probablement par IP3. D'un point de vue fonctionnel, et c'est une collaboration entre le labo de Franck Coury et le mien, mais ce n'est pas vraiment une collaboration, cette manip a été faite dans le labo de Franck. Quand on injecte des shRNA pour GPR158 dans le cerveau de souris sauvages, qu'on attend 3 semaines et ensuite on traite ces souris avec ostéocalcine, et puis on mesure des tests de comportement, soit d'anxiété, soit de mémoire, ce qu'on voit, c'est que les souris qui reçoivent le contrôle, chez les souris qui ont reçu le contrôle SHRNA, ostéocalcine a le même effet anti-anxiété. Mais chez les souris qui reçoivent le SHRNA4 GPR158, il y a une grande anxiété comparée au contrôle, quels que soient les tests. Et d'un point de vue génétique, cette fois-ci, si on fait des doubles hétérozygotes, comme j'avais présenté la semaine dernière, pour montrer qu'à la fois la fonction est de ce récepteur et ce ligand, des souris à qui il manque un allèle d'ostéocalcine et un allèle de GPR158 sont essentiellement très anxieuses, alors que les simples hétérozygotes n'ont pas de phénotype. Si on fait les mêmes manips maintenant pour, ça c'est encore l'anxiété, mais pour toujours l'anxiété, oui, mais simplement maintenant pour les souris GPR158 homozygotes, elles sont anxieuses, quel que soit le critère, et les hétérozygotes ont un tout petit niveau d'anxiété. Ça, c'est un autre test. Et enfin, j'ai oublié la diapo de la mémoire, je crois. Ce qu'on peut voir, c'est qu'une des molécules qui est régulée par ostéocalcine à travers GPR158 et qu'on avait peut-être pas étudié plus avant au départ, et BDNF, dont l'accumulation augmente dans les souris âgées qui reçoivent du plasma de souris jeunes, mais pas dans les souris âgées qui reçoivent du plasma de souris ostéocalcine knockout, à moins qu'il ait été injecté lui-même avec ostéocalcine. Et ostéocalcine en fait régule l'expression de BDNF dans l'hippocampe et dans le cerveau moyen. Et enfin, la dernière expérience qui est la plus difficile pour moi à expliquer, les neurones de rat ont été isolés dans des chambres pour les cultiver et ont été infectés avec des virus qui contenaient BDNF et M-chéri pour pouvoir mesurer si ces neurones avaient des promotions axonales qui augmentaient ou pas une fois qu'ils étaient traités avec ostéocalcine. Et en fait, le traitement d'ostéocalcine augmente la vélocité avec à laquelle ces axones se forment et augmente la distance jusqu'où ces axones parcourent. La diapositive que, malheureusement, je n'ai pas, c'est que le knockout de GPR158 a également un phénotype de mémoire. Donc, en résumé, il y a deux aspects de la fonction d'ostéocalcine dans le cerveau. Le premier est un niveau développemental. Ostéocalcine de la mère passe le placenta, va dans le cerveau, prévient l'apoptose des neurones et favorise le développement de l'hippocampe. Après la naissance, ostéocalcine favorise la synthèse de toutes les monoamines et de BDNF, inhibe celle de GABA, prévient l'anxiété et favorise la mémoire. Il y a un problème qui sera l'objet de la quatrième conférence avec ces résultats, c'est que, en fait, tout ce qu'ils disent, c'est que l'hypothèse originale ne suffit pas à comprendre les fonctions endocrines de l'os. Les fonctions dans le cerveau ne s'inscrivent pas dans cette co-régulation bone, os, métabolisme énergétique et reproduction. Et donc, il y a une autre logique qui doit être découverte. En résumé, ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est qu'ostéocalcine est nécessaire et suffisante pour promouvoir l'anxiété et la mémoire et prévenir l'anxiété. Elle est nécessaire et suffisante. BDNF médie probablement une grande partie de la régulation d'ostéocalcine, de la mémoire par ostéocalcine à travers ce récepteur GPR158 qui est exprimé à très haut niveau dans d'autres régions du cerveau et dans lesquelles nous n'avons pas encore d'idée quelle peut être la fonction d'ostéocalcine. Si on regarde maintenant les notions qui émergent au-delà des résultats, certaines qui avaient été mentionnées la première conférence, c'est que L'ostéocalcine est une hormone qui est suffisante pour favoriser les fonctions physiologiques qu'elle régule, que ce soit l'exercice ou la mémoire, deux fonctions qui diminuent très sévèrement avec l'âge quand l'ostéocalcine diminue. L'ostéocalcine a des fonctions dans les cellules sur lesquelles son récepteur est présent, des fonctions anti-apoptotiques ou de prolifération. Mais essentiellement, l'ostéocalcine agit en amont d'autres molécules régulatrices, insuline, testostérone, IL-6, FGF21, monoamine, BDNF. Et enfin, pour introduire la dernière conférence, la nature, mais surtout la nature, car il n'y a pas vraiment de chauvinisme au fait qu'ostéocalcine a plus qu'une fonction. La question est de savoir pourquoi ces fonctions. La nature des fonctions physiologiques régulées par ostéocalcine suscite cette question. Pourquoi l'os, et pourquoi spécifiquement l'os, a ces fonctions? Comment se fait-il qu'avec l'évolution et l'apparition de l'os, il y a eu un nouveau niveau de régulation pour tant de fonctions et que ce niveau de régulation soit totalement localisé dans une seule cellule? Je vous remercie.